Bonjour à tous. C'est un début d'année et on a coutume de présenter les vœux, bien sûr. Et je les présente à tous, parce qu'il y en a peut-être que j'ai oublié, mais on se souhaite tous une bonne année. Et peut-être particulièrement à nos visiteurs qui viennent de s'installer dans la région, quitter leur belle Auvergne pour la région parisienne, c'est pas évident. Donc voilà, on va prier pour eux. Et on va regarder un petit peu Néhémie. Alors c'est un petit survol, hein, mais qui est lié justement à des commencements ou à des recommencements, des constructions ou des reconstructions. Et bah oui, quand on déménage, c'est aussi un nouveau départ. Et dans notre vie, on a tous des nouveaux départs. Pas forcément au nouvel an, mais ça peut être dans le travail, ça peut être dans les familles, ça peut être des mariages, puisqu'on va avoir un mariage à la fin du mois. Des redéparts, des reconstructions. Et j'ai pensé à Néhémie. On avait fait une série sur Néhémie il y a quelques années, sur 2 mois, je crois. Mais on va juste revoir certains points. Alors, pour bien cadrer Néhémie historiquement, le peuple d'Israël avait désobéi de façon répétitive à Dieu, était tombé dans toutes sortes d'idolâtries, et Dieu avait prévenu. Hein, Jérémie avait fait tout ce qu'il avait pu, lui aussi, mais bon, ils n'ont pas écouté. Et finalement, l'envahisseur est arrivé. Alors, avant, c'était les Assyriens, puis après, ça a été les Babyloniens, et après, c'était les Perses, qui ont pris le pouvoir les uns après les autres. Et on est à cette époque où Néhémie faisait partie des gens qui avaient été déportés. Parce qu'ils étaient malins, ils prenaient la crème de la population. Les gens les plus instruits, les plus compétents, les artisans, les plus compétents, etc. Et ils les déportaient chez eux. Alors, il y en avait beaucoup à Babylone. Alors, Babylone, pour vous situer, c'est plus ou moins Bagdad aujourd'hui. Hélas, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Plus ou moins, c'est à quelques kilomètres. Et puis, Suse, capitale de l'Empire perse. Donc, Néhémie travaille à la cour. Il est bien vu par le roi, mais vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé pour lui. C'est donc le premier chapitre de Néhémie. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la citadelle, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Juda était vidé de sa population, alors il restait les pauvres, les plus pauvres, les moins compétents, les moins intéressants, les plus vieux, les invalides, enfin vraiment, voilà, les plus malheureux. Et c'est tout ce qui restait, ils avaient vraiment écrémé la population. Je les interrogeais au sujet des Judéens rescapés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem, ils me répondirent « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. » Il y a d'autres versions qui parlent de honte. « Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem, et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je me mis à pleurer pendant plusieurs jours. Je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu du ciel. Je dis, s'il te plaît, Seigneur Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la fidélité envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, je t'en prie, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts pour entendre la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. Je suis en prière devant toi aujourd'hui, jour et nuit, pour les Israélites, tes serviteurs, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. » Et on ne connaît pas la vie de Néhémie, mais il s'associe aux péchés de son peuple. Parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié dans notre société, hein. La solidarité, la communauté. On vit dans le chacun pour soi de plus en plus, hein. C'est une réalité. Et je ne vais pas prendre sur moi la faute de mon voisin, je ne vais pas prendre sur moi, voilà, c'est un peu ça, hein. Moi c'est moi, lui c'est lui. Le sens de communauté a disparu. Et en région parisienne, plus que partout ailleurs d'ailleurs, c'est chacun pour soi, chacun en vit des individualités. Et c'est comme ça qu'une société d'ailleurs se délite, hein, et se détruit, parce que c'est chacun pour soi. Dieu ne nous a pas construits pour vivre chacun pour soi. On n'a pas été fait pour vivre isolément. Il y a une solidarité, Et c'est sûr que la maladie, on l'a vu avec le Covid, hein. Quelqu'un qui tombe malade à l'autre bout du monde, en quelques mois, vous savez ce que ça a pu donner. Il y a, qu'on le veuille ou non, il y a une communauté. On le voit bien au niveau des épidémies, on vit en communauté, même si on n'aime pas ça. Et Néhémie a ce sens de la communauté. Moi et ma famille, nous avons péché. Il s'associe à sa communauté. Nous avons vraiment mal agi envers toi. Nous n'avons pas observé tes commandements, les prescriptions et les règles que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi, je t'en prie, de cette parole que tu as donnée à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous commettrez des sacrilèges, je vous disperserai parmi les peuples. Effectivement, c'est arrivé. Mais si vous revenez à moi, et si vous gardez mes commandements, si vous les mettez en pratique, alors quand même vous seriez bannis aux extrémités du ciel. De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as libérés par ta grande puissance et par ta main forte. Ils reviennent toujours, hein, cette reconnaissance d'avoir été libérés de l'Égypte, hein. C'était pourtant plusieurs siècles avant. Hein. Ils sont tes serviteurs, oui. S'il te plaît, Seigneur, que ton oreille soit attentive à ma prière et à la prière de tes serviteurs qui désirent craindre ton nom. Donne-moi aujourd'hui de réussir et accorde-moi la compassion de cet homme. Il s'agit du roi qu'il servait. Alors moi, j'étais échanson du roi, c'est-à-dire il servait à boire au roi. Alors j'imagine qu'il prenait des risques parce que les chansons, en principe, goûtaient le vin avant de le donner au roi. De toute façon, parce que si il tombait mort, le roi était épargné. C'était la coutume de l'époque, les goûteurs. Voilà. Alors, quand je relis ce texte, je pense à quelqu'un, il y a des années, qui m'avait dit « Mais pourquoi on prie ?» Pourquoi on prie? On répète tout le temps la même chose. Mais Dieu n'est pas sourd. Il suffit de lui dire rapidement, « Seigneur, j'ai besoin de ça et ça. Seigneur, je te demande pardon pour ça et ça. Amen, et c'est fini. » Logiquement, oui. Mais pourquoi est-ce qu'on répète les choses dans la prière? Parce que là, il répète hein, pas mal de choses. Est-ce que c'est parce que Dieu n'entend pas? Ou est-ce que c'est parce que nous, on a besoin d'être convaincus de ce qu'on dit? Je crois que c'est plutôt la deuxième option. Hein. Quand on prie, souvent on répète parce qu'on a besoin d'être convaincu de ce qu'on dit, de s'imprégner de ce qu'on demande aussi. Dieu entend, il entend la première fois, mais nous on a besoin. On a besoin aussi d'être régulier dans la prière. Et c'est vrai que les jeunes, vous vous posez certainement la question, mais est-ce qu'on a besoin de prier pendant des heures? Est-ce qu'on a besoin de répéter les choses? En fait, je crois que c'est pour nous plus que pour, plus que pour Dieu. Dieu, il entend la première fois, hein, c'est clair. Et Néhémie intercède, il prie pour son peuple. Alors, Jérusalem avait été rasée. Donc, comme je dis tout à l'heure, la majorité de la population avait été exilée, Babylone, Suse. Et Néhémie est au service du roi, comme tous les gens bien, l'aristocratie, tous les gens compétents, étaient à la cour. Alors, il reste très peu d'habitants à Jérusalem, et la ville est dans le malheur et le déshonneur. Et il y a des brèches dans les murailles. Alors, à quoi servent des murailles quand il y a des trous dedans, hein? Nous, on le vit régulièrement avec nos chiens. On a un grillage tout autour. Et régulièrement, nos chiens ont trouvé des petits trous. Ils ont gratté en dessous. Et puis, pouf, on a des problèmes parce que tout s'en va. Et toute notre vie, je crois que depuis près de 50 ans, pas tout à fait, non, 40 et quelques années qu'on habite à la campagne. Régulièrement, il faut faire le tour de la clôture pour voir où Toutou a bien pu gratter. Et on est au 8e chien et ils ont tous trouvé des trucs pour sortir. Et ça ne sert à rien, hein, une muraille, s'il y a des trous dedans. Ça fait mal au cœur. Et les portes même de la ville sont brûlées. Alors, je ne sais pas, maintenant, on n'a plus de portes dans les villes, mais si vous visiter d'anciennes citadelles, ces énormes portes qui étaient certainement magnifiques, brûlées. Dieu les avait prévenus. Et j'ai pensé relire Jérémie 2, verset 13, puisque je parlais tout à l'heure de Jérémie. « Mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Alors, dans un pays chaud, on a vu hein, ces derniers étés qui ont été très chauds, l'eau, c'est important. Et je crois que de plus en plus, à la campagne, enfin, chez nous, on le voit aussi, les gens, ils mettent des grosses, je ne sais plus comment ça s'appelle, des grosses citernes en plastique là, auprès de leur gouttière ou et pardon, des récupérateurs d'eau. Merci. Et parce que bah, c'est bien pratique, et on s'arrange pour qu'ils soient pas troués. Hein. Alors je crois que nous c'est ouais c'est un joint quoi qui pose problème, ça a coulé. Mais bon, quand ça marche bien, c'est bien précieux hein, d'avoir quelques mètres cubes d'eau disponibles pour arroser le jardin quand il y a la sécheresse. Et le problème, souvent, on se dit « Oh oui, mais bon, on n'a pas tué, on n'a pas volé, de quoi peut-on se repentir ?» Mais est-ce que nous aussi, dans notre vie, on ne creuse pas des citernes crevassées ? Des citernes, bah, le fond, il n'est pas très étanche. Alors que Dieu est pour nous la source d'eau vive. Mais on est humain, très humain. Et on va souvent chercher ailleurs quand ça ne va pas. Ça, je vais en reparler. Et des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Ce qui fait que quand on a besoin d'eau, qu'on est assoiffé, qu'on est dans le souci, c'est de la boue. Il ne reste plus que de la boue. Néhémie parle et prie au nom de son peuple. Il confesse les péchés du peuple. Il rappelle à Dieu ses promesses. Il ne faut jamais oublier. Même quand on se repent, même quand on sait qu'on est coupable devant Dieu, il ne faut jamais oublier ses promesses. Et en ce début d'année, alors qu'on va construire, reconstruire, faire des nouvelles choses, il ne faut jamais oublier les promesses de Dieu. Son alliance est indéfectible. Nous, si on est infidèle, lui demeure fidèle. Il ne faut jamais oublier ça. Sinon, on sombre. Hein? Mais Dieu est fidèle, il est fidèle jusqu'au bout. Même quand il n'est pas content avec nous, il reste fidèle. Et j'aime tellement ce verset, je crois que c'était Isaïe, où il dit « Tous les jours, je tends les mains vers ce peuple rebelle. » Lui, il continue à tendre les mains vers nous. Même si nous, on va vers des citernes crevassées. Donc, il rappelle à Dieu ses promesses que tu as données à Moïse, ton serviteur, etc. On l'a lu tout à l'heure. Cette semaine, donc, avec ceux qui le souhaitaient, on a prié chaque soir. Alors, pas forcément parce qu'on a fait des horreurs, même si ça peut être des horreurs aux yeux de Dieu, mais simplement pour revenir vers l'Éternel. Et peut-être je voulais insister là-dessus parce que parfois on se dit « Ah mais de quoi je peux me repentir ? Je demande pardon à Dieu tous les jours, etc. » Mais il y a ce côté « revenir vers l'Éternel ». Et on a tous besoin de revenir. Est-ce qu'on peut tous dire qu'on a une parfaite communion avec Dieu 24 heures sur 24, etc. Non. Et il y a des moments où on a besoin comme ça de marquer. Hein, c'est comme quand on souhaite un anniversaire ou qu'on souhaite une fête quelconque. C'est pour marquer les temps. Et on a besoin par moment de ce temps pour dire « Seigneur, je reviens vers toi. Et puis, je veux accomplir ta volonté. » Quelle est la volonté pour chacun de nous chrétiens ? Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on perd de vue, c'est aller par tout le monde, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, acte 1, 8, vous serez mes témoins, vous êtes ambassadeurs de Christ. Est-ce qu'on accomplit cette parole au quotidien ? À quoi sert l'Église si ce n'est pas pour être une lumière et pour être le sel ? À quoi sert l'Église si ce n'est pas l'endroit où je peux vraiment faire connaître Jésus à ceux qui viennent ? À ce que je peux amener à l'Église aussi. À quoi sert l'Église si on oublie ce message ? Et pour ça, il faut revenir vers Dieu. Revenir vers Dieu. Alors, ce n'est pas nécessaire d'avoir volé ou tué son voisin pour revenir vers Dieu. Hein. Revenir, ça suppose qu'on s'est éloigné, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut s'éloigner de Dieu ? Bah, souvent, c'est simplement parce qu'on a eu d'autres priorités. Parfois justifiées. Les soucis de la vie, le travail, les enfants, je pense à toutes les mamans qui font des kilomètres toutes les semaines pour emmener les enfants à l'école, etc. Très vite, on peut s'éloigner parce qu'on a une routine. Et puis, il fallait gérer nos soucis et nos problèmes. Et petit à petit, il y en a tellement qu'on finit par le faire sans consulter Dieu. Bon, alors, je vais faire ça, je vais dire ça, et puis voilà. Et puis, il y a une petite voix qui dit, mais... Si tu priais, si tu demandais à Dieu de t'inspirer, ah, on ne l'a pas écouté. On n'a pas pris le temps d'écouter. Ben, il faut réagir vite. Hein? Il y a eu tel problème à l'école, il y a eu tel problème au travail, il y a eu tel problème dans la famille. Il faut réagir vite parfois. Et on ne prend pas le temps de prier. et surtout de demander sa sagesse. Parce que la sagesse des hommes, c'est une chose, mais la sagesse de Dieu, c'en est une autre. La sagesse de Dieu, c'était d'envoyer Jésus pour mourir sur une croix, pour prendre notre place. Et qu'est-ce que dit la Bible ? C'était une folie. C'est une folie. D'ailleurs, vous savez, pendant 25 ans, j'ai enseigné la culture biblique dans une école catholique. Et souvent, j'avais des enfants, c'était des cinquièmes que j'avais, qui me disaient, mais madame, c'est trop facile. Alors comme ça, il y a quelqu'un qui meurt à votre place, et puis pouf, vos péchés sont pardonnés, pouf, toutes vos fautes sont effacées. Vu comme ça, évidemment. Mais la sagesse de Dieu, c'était de faire payer un prix que nous, on ne pouvait pas payer. Par le seul qui pouvait le payer, c'est Jésus. Est-ce qu'on y pense encore ? Moi, ce que je trouve admirable dans la Bible, c'est, et encore aujourd'hui chez les Juifs, il nous a délivrés de l'Égypte. Oh là là, là, chaque fois, ils répètent, hein ? Ils répètent aussi pour leurs enfants, leurs descendants. Et c'est quelque chose qui est là depuis Moïse, hein, où ils ont continué, et encore aujourd'hui, et encore pendant la Shoah, quand ils allaient dans les camps de concentration, etc. Il nous a délivrés de l'Égypte. Et je me dis, Seigneur, est-ce que nous, chrétiens, on n'est pas un petit peu dans le genre gâté ? Vous savez, ces enfants gâtés qui ne sont jamais contents quand on leur offre quelque chose ? Parce que, est-ce qu'on revient suffisamment en ce début d'année ? Moi, je vous invite à revenir. Il a pris sur lui nos péchés. Il a payé un prix que nous, on ne pouvait pas payer. Pour notre libération, pour notre pardon. Ça fait partie des choses qu'on oublie. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, ce n'est pas la même que celle des hommes. La sagesse de Dieu, c'est parfois de nous demander d'accepter une injustice. La sagesse de Dieu, c'est parfois de nous demander de patienter. Oula, ça c'est un vilain mot, hein. Patienter. C'est un mot qu'on n'aime pas, hein. Je lisais dans le journal récemment que les gens avaient horreur d'attendre les trains parce que ces derniers temps, c'est vraiment le truc, hein. On peut attendre un train pendant trois quarts d'heure, une heure. On n'aime pas attendre, hein. Ça peut se comprendre. Mais avec Dieu, il faut aussi savoir attendre parfois. Ça, c'est désagréable. Et puis parfois, on est tombé aussi dans une certaine indifférence. La routine. Vous savez, ça use la routine. Alors, on en parle pour les couples, bien sûr. Mais on en parle aussi pour le reste des familles. Hein. Parfois, c'est la routine. Et on ne pense pas, peut-être, à regarder nos enfants qui grandissent. Et ah ben, c'est la routine, on fait ça, puis après ça, ça et ça et ça. Et puis, on oublie les personnes, parce qu'on est dans la routine. Et on oublie Dieu aussi. La routine, c'est terrible. Et ça crée une certaine indifférence. Donc, on a besoin de revenir vers Dieu. On a cherché d'autres sources de joie. Ou de paix. Ça va pas ? Oh, allez, je vais regarder Netflix. Oh, allez, on a tous fait ça, hein ? Ou autre chose ? Je dis Netflix parce que c'est le truc, mais il y en a bien d'autres. Oh, je me sens pas bien, je suis fatiguée, je suis découragée. Alors, une petite voix qui vous dit, bah, prie. Oh, je vais regarder mon film policier préféré. J'en connais d'autres. Ouais. Et il y a une petite voix qui vous dit, prie, reviens vers Dieu. Oh. C'est curieux, hein, qu'on n'a pas envie de prier, c'est quand on en a le plus besoin. Vous avez remarqué ça ? Peut-être que moi, mais franchement, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi une autre façon de s'éloigner de Dieu, c'est de laisser la peur, les soucis et les angoisses prendre le dessus dans nos cœurs. Alors là, je ne sais pas trop pour les hommes, mais je sais que pour les femmes, hein, pas facile, hein, de réagir à la peur, à l'angoisse. Pas facile. Quand ça vous arrive dessus, et s'il arrivait ça, et ça, et ça, et si un tel faisait ça, et puis si je réussis pas, alors même pour les jeunes, hein, si je réussis pas mes examens, et si j'arrive pas à avoir le métier que je veux, et si je trouve pas le conjoint que je veux, et si, cette angoisse qui vient. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et ça aussi, ça prend le dessus. Alors on a besoin de revenir vers Dieu. Pour toutes ces raisons, il y en a d'autres, hein, je pense que vous pouvez mettre les vôtres, mais moi j'ai déjà mis les miennes. Mais pour toutes ces raisons, on a besoin de revenir vers Dieu. Ah, c'est pas qu'on est d'horribles criminels, mais oui, on s'est détourné de la source de vie. On est allé boire de la boue alors qu'il est la source de vie. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a besoin de revenir vers Dieu. Ce n'est pas forcément de faire la liste, hein, ce n'est pas un confessionnal, ces réunions de repentance, où on est obligé d'égrener toutes nos fautes, tous nos péchés, et de chercher tout ce qu'on a bien pu commettre, en rajouter un peu pour être sûr de rien oublier. Non. On revient vers toi, Seigneur, parce que la vie fait qu'on s'éloigne. Tout simplement. Et c'est très facile pour une église entière de glisser tout doucement vers sa routine. Surtout qu'on a une routine en tant qu'église, hein. On se réunit tous les mercredis soirs pour prier, tous les dimanches pour le culte, puis il y a des invités, il y a ceci, il y a cela, ça pimente un peu, mais il y a quand même une routine. Et puis on faut louer Dieu, et parfois on loue Dieu sans avoir la joie du salut. Alors il n'y a peut-être que moi, mais ça arrive. Et pourquoi Dieu dit dans sa parole, « Ce peuple m'honore des lèvres ». Oh, vous, ça vous est jamais arrivé, bien sûr. Mais moi, oui. Hein, parfois, on chante « Attaché à la croix pour moi » sans réfléchir. On a besoin de revenir vers le Seigneur, revenir aux réalités de notre foi. On a plus de facilité parfois pour parler de nos problèmes plutôt que d'implorer Dieu. C'est curieux, ça. Hein, ça, c'est pas un hasard. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi de Dieu qui s'arrange pour nous mener dans les mauvais chemins. La période Covid nous a amenés à nous soucier de plein de choses nouvelles. Alors, je ne dis pas ça pour nous excuser, mais c'est un fait. Comment maintenir la vie d'église malgré les problèmes? Comment gérer la technique? Ça, c'est horrible, j'y comprends rien et franchement... Comment maintenir une vie d'église? C'était pas évident. Comment retransmettre les cultes, etc. En plus, nous ici, on vit dans la transmission du pastorat. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant. Malheureusement, dans les églises où on est né, on n'a pas vu de transmission, donc on n'avait pas de modèle. Et il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des difficultés, c'est normal. C'est pas facile de transmettre. C'est pas facile, et de savoir quand, comment et à qui. On peut manquer de discernement, on a commis certainement des erreurs. Et l'ennemi en profite largement, hein, de nos faiblesses. Il aime nos faiblesses humaines. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez réfléchi, en Éden, quand le diable a été puni pour ce qu'il a fait d'avoir entraîné Adam et Ève dans le péché, sa malédiction, ça a été de ramper et de se nourrir de la poussière de la terre. Et qu'est-ce que l'homme? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'ennemi se nourrit de nos faiblesses humaines. Il se nourrit de nos fautes qui permettent aussi de nous accuser les uns les autres. Si les autres en ont toujours plus que nous, c'est évident. Et oui, nos faiblesses humaines, elles ne nous rendent pas service. Mais elles sont là. C'est pour ça qu'il faut revenir à Dieu. Et il est temps de revenir vers Dieu. Bien sûr, reconnaître nos fautes, recevoir son pardon pour commencer cette année nouvelle. C'était la raison de ce temps de jeûne et prière. Commencer cette année nouvelle. Lorsque Néhémie commence la reconstruction, alors il s'est passé des choses assez intéressantes. Chapitre 2, verset 19. Voilà ce qui s'est passé. Jérémie, il retourne à Jérusalem. Il est affligé par ce qu'il voit. Et puis il se dit, allez, on reconstruit. Et il a eu du courage, hein. Parce qu'il déjà fallait motiver les gens, et ce n'étaient pas les gens les plus compétents qui étaient restés dans la ville. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien non, il a confiance en Dieu, il y va, il fait un tour d'inspection d'abord, il regarde, il fait quoi? On dirait aujourd'hui un diagnostic. Et puis, il s'y met, et il commence à reconstruire avec ce qu'ils ont. Et puis, Sambala le Horonite, Tobija l'administrateur ammonite et Geshen l'arabe. Alors, en gros, c'est l'administrateur qui avait été nommé par le roi, et puis le gouverneur, en gros, hein, si on veut à peu près mettre ça au bout du jour. L'ayant appris, se moquèrent de nous et nous traitèrent avec mépris. Ils dirent, que faites-vous là? Vous rebellez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse, le Dieu du ciel nous fera réussir. Ah, quelle confiance en Dieu. Nous, ses serviteurs, nous bâtirons. Nous, ses serviteurs, nous bâtirons. On va s'arrêter là. L'administrateur et le gouverneur se moquent de ces petits commencements. Alors, on va parler tout à l'heure du mépris des petits commencements. Hein, c'est un texte de Zacharie. Oui, il y a des petits commencements. Et ce que les jeunes font à l'école, c'est des petits commencements. La persévérance qu'ils ont dans leurs devoirs, leurs leçons. Et croyez-moi, les parents, c'est pas facile. Là, je plaide la cause des jeunes et des enfants. Voudriez-vous aujourd'hui partir le matin vers 8 heures à l'école? Vous tapez 4 et 4, 8, entre 7 et 8 heures de cours et rentrer à la maison faire des devoirs jusqu'à... Ça vous dirait quelque chose? Moi, je pense que parfois, je ne sais pas les enfants, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, ce serait bien que les parents retournent une semaine à l'école comme ça. Je suis sûre qu'ils seraient crevés le soir. Ils n'auraient pas envie de faire leurs devoirs. On est tous d'accord, les jeunes, là? Ben oui, c'est vrai, hein? Ils ne se rendent pas compte? C'est épuisant d'écouter des profs toute la journée. Alors là, dans l'église, on a deux ou trois profs là-haut. C'est épuisant d'écouter des profs toute la journée. Ah là là, c'est dur, hein? Mais c'est un commencement. Parce qu'après, il va falloir faire ça au travail aussi. Persévérer, même quand c'est difficile. C'est un commencement. Alors vous allez me dire, c'est le commencement des enquiquines. L'école, oui. Ben oui, mais après, bon, vous aurez le métier que Dieu vous aidera à choisir. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors, ayez pitié de vos enfants quand ils rentrent, qu'ils n'ont pas envie de faire leurs devoirs. Je dis pas de les encourager à pas les faire, hein. Mais bon, un peu de compréhension, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Pensez-y quand ils rentrent fatigués. Alors, au chapitre 3, verset 33, petit commencement. Et puis, voilà ce qui est écrit. Lorsque Sanballat, donc l'administrateur, apprit que nous rebâtissions la muraille, alors cette fois, il se fâche. Là, il s'était moqué, maintenant il se fâche. Il était très contrarié. Il se moqua des Judéens. Il dit devant ses frères et devant les forces de Samarie, « Que font ces Judéens minables ? Vont-ils restaurer leur ville pour y offrir des sacrifices ? Vont-ils, croient-ils achever un jour ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiées ?» Tobija, donc c'est le gouverneur, était à côté de lui. Il dit, « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il ouvrira une brèche dans leur muraille de pierre. » Waouh, c'est pas très encourageant ça. Hein? Et c'est tout à fait ce que l'ennemi vous dit à l'oreille. Hein, quand vous êtes découragé, quand nous sommes découragés. Oh, tu peux toujours essayer de reprendre, tu peux toujours essayer de recommencer, tu peux toujours essayer de commencer une nouvelle année avec des bons principes et avec le Seigneur. Un malheureux petit renard fera tout tomber. Vous n'allez pas y arriver. Hein, on dit toujours ça à propos de nos résolutions, pour plein de choses. Mais ce qu'on fait avec le Seigneur, c'est différent. Croit-il achever un jour? Mais Dieu est là. Hein, Julie dit toujours, mais Dieu. Mais Dieu est là. Et si vous êtes dans un redémarrage, Dieu est là. Et c'est à lui qu'il faut faire confiance. Si on regarde à nous-mêmes, nos défauts, nos incapacités, nos... Hein, quand on rentre en terminale, par exemple, hein, si on commence à regarder tout ce qu'on n'a pas bien appris, tout ce qu'on n'a pas bien retenu, etc., c'est un nouveau départ, puis c'est le départ après pour les études au-dessus. Alors bon, on croule, et puis l'ennemi vient te dire, tu vas pas y arriver, tu vas redoubler, tu vas pas y arriver, ce nouveau travail, attention, tu vas pas y arriver. Il ne faudra pas grand-chose pour tout fiche par terre. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Hein? Non, non, non. Néhémie est arrivé avec très peu de choses parce que Dieu était avec lui. Et puis, il y a une troisième étape. Ça vous montre un peu comment l'ennemi fonctionne parce que, hélas, nous avons un ennemi et il fonctionne très, très bien. Hein? La troisième étape, au chapitre 4 et au verset 2, mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, ils avaient rassemblé des gens autour d'eux, furent très fâchés d'apprendre que la réparation des murailles de Jérusalem avançait. Parce qu'elle avançait, la réparation des murailles. Alors, ce n'était pas simple, hein, parce que, je ne sais pas, mon père, il a fait pas mal de murs autour de notre jardin. Et il me disait toujours, attention, quand les briques ont des traces de suie, il faut bien les frotter, bien les laver, parce que le ciment ne va pas bien coller. Or là, je constate qu'il y a des tas de pierres qui avaient été dans le feu. Donc, ça a pas dû être simple. Ils ont dû frotter, gratter. Ça a été un travail de titan. Et qu'on commençait à reboucher les brèches. Ils conspirèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem. Après, c'est l'attaque frontale. Alors ça, on n'aime pas ça, les attaques frontales. Mais Et là, j'aime ce verset. Mais nous avons prié. Pourquoi il faut prier? Parce que les choses ne sont pas simples dans la vie. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, il y a toujours un élève qui ne fiche rien et qui est premier de classe. Bon, bah, tant mieux. Dieu lui a donné des capacités au-dessus de la moyenne. Bah, ce serait bien prier pour qu'il les utilise. Mais bon, la plupart d'entre nous, il faut bosser. C'est ça qui est dommage à l'école. Hein, mais bon, il faut bosser. Et prier. Mais nous avons prié notre Dieu. Et à cause d'eux, nous avons mis en place une garde jour et nuit. Pourquoi il fallait une garde? C'était quoi cette garde? Je pense que nous, pour nous chrétiens, à la maison, dans la famille, c'est la prière. Prier sans cesse. Alors bon, on ne peut pas rester à genoux toute la journée. Mais dans la voiture, vous savez, les voitures, c'est un lieu de prière extraordinaire. On n'est pas dérangé si on est tout seul dans la voiture. Et on peut vraiment prier. Ceux qui ont des trajets, profitez-en. Dans les trains, on peut lire sa Bible. Si on est assis, mais debout, c'est pas facile. Mais enfin, avec le téléphone, ça va. Prier sans cesse. Mais nous avons prié notre Dieu. Et à cause d'eux, nous avons mis en place une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Alors, le problème, c'est que parfois, hein, comme Élie, Judas disait, les forces des porteurs vacillent. Les décombres sont considérables. Nous ne parviendrons jamais à bâtir la muraille. Le découragement. Le découragement. Maman, j'y arriverai jamais. Alors moi, j'ai dit ça quand j'étais jeune devant mes devoirs de maths. Hein. J'y arriverai jamais parce que je comprends strictement rien. Rien, mais rien. Ça devenait tellement grave que finalement, j'ai pris quelques cours de maths. Et Dieu a permis qu'un de mes amis, qui était un matheux grave, pour moi c'est grave d'être matheux à ce point-là, patiemment m'a refait tout le programme depuis la sixième. Et j'ai eu 14 au bac. Et je peux vous dire que ce n'est pas grâce à moi. Dieu a répondu à mes prières. Maman, j'y arriverai jamais. Il y a des moments où on pleure sur ses devoirs, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Là, on a tout un tas de frères et sœurs qui sont en train d'apprendre le français. Et je pense que par moment, il y a des découragements. J'y arriverai jamais. Eh bien, on prie pour eux. Et puis, ils prient aussi. Et les adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce qu'on arrive au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Il y aura toujours des gens pour vous freiner, que ce soit dans le travail, dans la famille, même dans l'église parfois. L'ennemi ne veut pas qu'une église vive, il ne veut pas qu'une famille vive bien. Il existe malheureusement, on est obligé d'en tenir compte. Mais qu'est-ce que dit Néhémie? N'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur, souvenez-vous du Seigneur, souvenez-vous du Seigneur. Il est grand et redoutable. Et combattez. Ah, moi j'aimerais bien que ça s'arrête là, le verset. Il ajoute, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Combattez, combattez dans la prière, combattez dans la foi. Oh, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, qui aimeraient bien que ce soit juste. Souvenez-vous du Seigneur, puis il fera le reste. Combattez. Bon, combattons. Et puis, au chapitre 6, ils vont encore plus loin. Ils vont carrément accuser Néhémie. Tu veux devenir leur roi. Ah, classique comme attaque, ça. Chapitre 6, verset 6. Le bruit se répand parmi les nations et Gachnou affirme que toi et les Judéens, vous vous préparez à vous rebeller. C'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Donc, on juge les motivations. Hein, et le diable va vous dire ça. « Ah oui, mais tu veux réussir tes études ou tu veux réussir ta famille. Mais c'est de l'orgueil. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même désigné des prophètes pour proclamer à Jérusalem à ton sujet. Il y a maintenant un roi en Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi. Ah ah, Néhémie, t'as beau être ami avec le roi, hein, mais ça va faire des problèmes. Viens donc et discutons. Je lui fis répondre, ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas. C'est toi qui les inventes. Tous ces gens voulaient nous faire peur et se disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, Seigneur, donne-moi du courage. Je crois qu'en ce début d'année, c'est ma prière pour moi-même, c'est ma prière pour l'Église, c'est ma prière pour chacun de vous, ce que vous affrontez cette année, que le Seigneur vous donne du courage. Que le Seigneur vous donne du courage face à tout ce que vous voulez construire, reconstruire, tout ce que vous voulez faire. Alors, je terminerai par une petite histoire que je voulais raconter la semaine dernière, mais je pense qu'il y a eu suffisamment de beaux témoignages qui nous ont fait du bien. Et d'ailleurs, il faudra recommencer. Je suis sûre que Paola et Oscar ont beaucoup d'autres témoignages merveilleux à nous raconter. Donc, allez-y, poussez-les à le faire. Parce que ça vaut la peine. Moi, j'en ai entendu certains qui m'ont fait beaucoup de bien. Ils ont déjà vécu beaucoup, beaucoup de choses, des belles choses avec le Seigneur. Alors, ma sœur, il y a quelques mois, m'a envoyé ce petit papier. Vous savez, je ne sais pas si vous avez des petits calendriers évangéliques. J'en ai toute une collection à la maison parce que c'est souvent là que je pêche mes histoires pour les enfants. Ceci étant, je vérifie toujours que c'est vrai, que ce sont des histoires vraies. Voilà. Et là, j'ai vérifié, j'ai vu la biographie du monsieur sur Internet, il n'y a pas de souci, c'est une vraie histoire. Alors, le verset utilisé, c'est « Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront. » C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins, les projets donc des cœurs. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Alors bon, là c'est une petite histoire qui peut nous faire réfléchir. On sait que les apparences sont trompeuses. En tant que chrétien, c'est sûr qu'on ne veut pas être semblable aux amis de Job. Ceci étant, moi c'est marrant, mais je sais pas, je devais être en quatrième ou troisième quand j'ai lu Job pour la première fois. Et puis je trouvais les amis de Job, je trouvais qu'ils avaient raison. Je dis, oh ouais, quand même, Job, là, il râle après Dieu, c'est pas beau, enfin, on peut voir ça comme ça. Mais Dieu n'a pas vu ça comme ça. On en reparlera plus tard. Dieu n'a pas approuvé leur acharnement sur son serviteur. À la fin de l'histoire, celui-ci, donc Job, fut guéri, réhabilité et béni. On ne vit pas tout le temps dans l'épreuve, hein, heureusement. Ses amis ne furent épargnés que grâce à l'intervention de Job en leur faveur. Alors, l'anecdote suivante devrait nous faire réfléchir. Alors, c'était aux États-Unis pendant la guerre civile. Donc, la guerre civile 1861-1865. Il y a un jeune homme qui s'était surnommé Jim. Vous savez que les Américains aiment bien les diminutifs. Jim, qui se fait embaucher par un certain monsieur Worthy Taylor, qui était un fermier riche de l'Ohio. Plus ou moins centre-nord. Tout l'été, il va travailler pour ce fermier. Et il travaille dur. On le laisse manger ses repas à la cuisine, parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Hein. Et puis, il dort sur la paille dans la grange. Avant la fin de l'été, aïe, 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 il tombe amoureux de la fille du fermier. Oh, ça aurait pu être un conte de fées. Hein. Et non, parce que M. Taylor n'était pas du tout d'accord. Il a carrément dit aux deux amoureux qu'il n'était pas question qu'il se marie, parce que Jim n'avait ni argent, ni réputation. Surtout, c'était un gars qui n'avait aucun avenir. Alors j'ai regardé la biographie de ce gars, effectivement, il a fait plein de petits boulots. Ça prouvait qu'il était courageux, mais enfin bon, ça n'intéressait pas ce monsieur. Il a fait plein de petits boulots, il a fait toutes sortes d'études différentes. Bon, on pourrait penser qu'il était instable. Donc, le Jim en question, il a pris ses affaires, il s'en est allé pour ne plus jamais revenir. 35 ans plus tard, M. Taylor a démoli sa grange parce qu'il voulait en faire une plus grande. Et sur une des poutres, il a remarqué un nom gravé dans le bois. Ah, on aime bien graver des choses dans le bois. Pauvres arbres. Voilà, c'était une poutre, ça va. Et c'était celui de Jim, mais là, il l'avait écrit en entier. James A. Garfield. Rien à voir avec le chat. Il était alors président des États-Unis. 1881. J'ai vérifié sa biographie pour être sûr que l'histoire était vraie. Taylor a compris alors qu'il avait empêché sa fille d'épouser le futur président du pays parce qu'il l'avait méprisé et condamné sur son apparence. Aïe. Et le pasteur termine en disant « Ayons dans nos cœurs des sentiments semblables à ceux du Seigneur. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Et ça m'a fait penser, et là Julie va comprendre de quoi je parle, puisque nous sommes amateurs de films policiers, particulièrement de, comment il s'appelle, Hercule Poirot. Voilà. Ceci étant, l'acteur est chrétien, hein, et il a fait un enregistrement de la Bible avec un accent magnifique. Pour ceux qui connaissent l'anglais, je vous conseille de l'écouter. Il est engagé avec le Seigneur. Je ne sais plus comment il s'appelle, Hercule Poirot. Suchet, voilà. Vous savez, quand on regarde un film policier, souvent, il y a un personnage, c'est le coupable idéal. Il dit ce qu'il pense, ce qui n'est jamais très agréable d'ailleurs. « Ouais, moi je n'aimais pas cette personne. » Puis il est un peu soit débraillé, soit méprisant. Enfin bon, il n'est pas sympa. En gros, il n'est pas sympa. Et le jeune policier qui accompagne le détective en général, c'est lui. C'est sûr, c'est lui le coupable. Il ne l'aimait pas. Puis d'ailleurs, il avait tout à gagner, il n'avait rien à perdre. Et puis, bon, c'est le coupable idéal. Et pendant tout le début du film, nous aussi, hein, on regarde et on se dit, oh, oh, vraiment, ils ne se rendent pas compte, mais c'est lui le coupable. Hein. Oh, il passe à côté, là, le détective, il va se faire avoir. Il cherche à droite, il cherche à gauche, alors qu'il y a un coupable tout désigné. Puis en fait, vous apercevez à la fin du film que la personne que vous trouviez charmante, qui avait toute votre sympathie, c'était cette personne-là, le criminel. Et attention aux apparences. Attention aux apparences. Dans cette nouvelle année, soyons attentifs. On est sensible à l'apparence. On est humain, on est sensible aux apparences. Hein, si je vous envoie acheter des pommes, vous n'allez pas choisir les plus moches. Par contre, parfois, hein, on ouvre une pomme qui est toute belle, puis à l'intérieur, brrk. Faisons confiance à Dieu, plutôt qu'aux apparences. Dans notre vie, dans le choix des amis, choix des copains à l'école, cherchons. Qu'est-ce que Jésus nous avait donné comme recette par rapport aux apparences ? Regardez leurs fruits. Regardez leurs fruits. Est-ce que c'est des gens qui créent la division entre les amis ? Est-ce que c'est des gens qui créent l'amour, la paix ? Est-ce que c'est des gens qui aident les autres, qui sont au service des autres ou qui pensent qu'à eux ? Tout ça, c'est des petites choses. Regardez leurs fruits, Jésus a dit. Et quand on regarde les fruits, c'est beaucoup plus facile de choisir ses amis. Oh, ça ne nous met pas à l'abri de tout, mais voilà. Pour cette année, je pense particulièrement aux jeunes. Les amis, c'est important, hein. Ne regardez pas aux apparences. Faites confiance au Seigneur. Construisez ou reconstruisez avec le Seigneur, comme Néhémie, en ayant confiance en Dieu. Seigneur, cette nouvelle année, nous la remettons entre tes mains. Encore une fois, on veut revenir vers toi. On veut redémarrer avec toi. Tu connais nos faiblesses humaines, tu connais nos péchés, et malgré ça, tu nous tends les bras chaque jour. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Un amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Un amour qui pardonne. Parce que tu as pris sur la croix nos fautes, nos péchés, notre indifférence. Notre capacité à aller boire dans des citernes crevassées au lieu de venir vers toi. Seigneur, aie pitié de nous. Cette année, aide-nous à nous tourner vers toi. Aide-nous dans notre vie de prière à être cohérents, à être persévérants dans la prière. Parce que nous savons que la prière est efficace. Oh Seigneur, conduis nos jeunes particulièrement. Tu connais leurs soucis, leurs difficultés, leurs fatigues aussi. Que tu les aides dans leurs études et que tu les bénisses dans leurs entreprises. Que tu les bénisses dans leurs relations et qu'ils puissent marcher avec toi. Prier, non pas comme un devoir religieux, mais parce qu'ils retournent vers toi, ils reviennent vers toi pour cette nouvelle année. On s'attend à toi, Seigneur. Et on ne mérite rien, franchement, on ne mérite rien. Si on regarde à qui nous sommes, à ce qu'on fait, franchement, on n'a aucun mérite. Mais tous nos mérites sont parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Et nous te remercions, Seigneur, pour ton pardon. Et va nous aider à vivre cette année mieux que l'année précédente. Amen.